Vous écoutez Radio Campus, Université de Lille, 106,6 FM, www.campuslille.com.
Il avait tous les pouvoirs et perché dans sa tour d'ivoire. Le roi gars, broyé du noir, ne sachant plus se fendre la poire. C'est comme ça qu'on l'appelait. Par un apôtre, un jour fut licencié.
Et là vous êtes viré.
Un petit marrant a réussi à dériver sa majesté. Impossible de régner.
ko jalide nunu ye lakine jalide nunu be kolo ko jalide nunu ye senegali ga wulo de nunu be kolo ko jalide nunu ye iye mali jalide nunu be memba membale membale kakeleke membadi sakakuruni membale kasoke kuruti membari jonke kuruta kadi jalide nunuma kuke togo songo ha memba Adate tu yafo adama yi adaka sabole asema yi asente sikila akono mayi akono barabeji abe hakili jiki jonna abe miya jiki surukula suruku wara kele yorodo suruku bena mangalani keleni suruku bino kanko kankari suruku mabale mamosoluso Suruku ma bale ma keluso Hakili majiga olode nununa Suruku ma furu moso somo Sengo bila fanda Ambe mbatese
solala tolombala maka
kora balalo taja mala tolokora maka
kora balalo kili solala tolombala maka
boni balalo ima eja mala tolomboni maka
boni balalo kili solala tolomboni maka
La le jaliba siriman fila le jaliba jage moriba la le jaliba ho jalima ga jaliba maga soko soko simani simo salaba nkubaru kabala simo jara le jaliba
Laurent Michel, administrateur du club Léo Lagrange.
Alors Franck, comme Laurent, voilà.
Nordine, j'ai plus de fait.
Michel, membre de l'association et un des organisateurs.
Administrateur et membre de l'association du club Léo Lagrange font de l'inclusion une véritable force. Dès le début, depuis 17 ans, l'équipe du festival d'accordéon et nos belles bretelles à Herny dans le Valenciennois accueille des personnes en situation de handicap. Ce groupe accompagne les techniciens lors de l'installation des artistes, montage et démontage de chaque scène. La musique ici tisse des liens et crée des ponts entre les bénévoles. L'inclusion au festival des belles bretelles, quand est-ce que ça a démarré ?
Très rapidement, mais parce qu'on avait dans les équipes de direction, OCA, et dans les bénévoles, on avait des éducateurs qui étaient investis auprès d'adultes un peu différents. Et donc, ils ont fait participer les jeunes, les adultes, aux activités, en particulier montage, le festival lui-même, et puis le démontage.
Franck, de les mettre au montage et au démontage, c'est un rôle précis quand même, où il y a cette rapidité, il y a cette précision. C'est un rôle qui n'est pas facile.
Non, c'est pas un rôle qui est facile, mais après, quand on a envie, on y arrive toujours. Et ce qui particularise, par exemple, je pense tous les bénéficiaires, toutes les personnes qui sont accueillies dans les institutions et qui viennent en tant que bénévoles, comme tout le monde, sur le site des Belles Bretelles, c'est qu'ils ont envie. Il n'y a aucune différence. Ils ont envie, donc ils vont faire, ils vont y arriver. Et puis bah voilà, si des fois on galère un petit peu, bah, c'est l'occasion d'apprendre. Et tout le monde apprend. Hein. Tous les bénévoles apprennent une nouvelle tâche en venant ici. Et ils sont comme tout le monde, ils apprennent.
Donc, et vous insistez bien sur comme tout le monde, ces bénévoles soient comme tout le monde.
Mais ils sont comme tout le monde. La norme, c'est la société qui la pose. Nordine, il dépense autant d'énergie que Michel, on va dire, ou que Laurent sur la journée. Voilà, et plus parce qu'il est plus jeune que toi. Et très souvent, enfin, au début, les autres bénévoles disaient « Ah, bravo, c'est super, ils sont bien intégrés. » Moi, je répondais aux bénévoles, je disais « Je fais non, félicitations à toi. Tu les as acceptés, tu as été vers leur monde. Eux, ils sont tout le temps volontaires. » Il n'y a pas de problème. Hein, Nordine?
Ouais.
T'es tout le temps volontaire, toi?
C'est toute l'année, tous les ans.
Voilà.
Qu'est-ce que tu fais, toi, Nordine, au sein du festival? Raconte-nous.
Je prends des enceintes, des guitares, des amplis.
Voilà.
Et qu'est-ce que tu fais avec tout ça?
Mon social.
Qui t'aiguille? Parce que t'es pas tout seul, il y a quand même une équipe derrière toi. T'es pas tout seul à monter ou démonter.
Ah, non, c'est que Franck.
Ouais. Et il y a qui d'autre avec toi?
Yann Vossier. Ouais, Mélissa. Benjamin Duval. Ouais.
Et c'est pas trop lourd, ça va, parce que c'est quand même physique. Hein.
Non, ça va encore.
Leur confier ce rôle, finalement, c'est intéressant parce que c'est aussi être au contact des artistes.
Oui, alors oui, bien sûr, ça se vit là dans le cadre du club Léo Lagrange et particulièrement du Hainaut Belle Bretelle, en contact avec les artistes. Mais ce qui est intéressant d'entendre aussi, c'est que nous, notre intention au niveau du club Léo Lagrange, on est une association d'éducation populaire. L'idée qu'on se fait aujourd'hui de l'éducation populaire, c'est qu'on vive tous ensemble et qu'on partage les mêmes choses et que finalement, il n'y a pas une différence qui va se faire par rapport à un statut social, par rapport à une origine quelconque, un niveau scolaire ou autre. L'idée, c'est qu'on partage le moment avec chacun, avec nos forces, nos faiblesses, nos différences aussi. Voilà, on a aujourd'hui parlé d'éducation populaire, c'est pas forcément se référer à ce qui se faisait il y a 30 ans. Aujourd'hui, c'est simplement partager des moments tous ensemble, que des gens qui sont à première vue censés pas forcément se rencontrer, se rencontrent et de par cette rencontre, finalement, apprennent à se connaître et à s'apprécier et à mieux se connaître et que l'ouverture que ça va offrir va permettre peut-être à ce que des préjugés tombent, des représentations souvent tenues par les médias ne soient plus.
Vous l'avez vu, au cours des années, 17e édition hein, des Belles Bretelles, il y a moins en moins de préjugés, les clichés tombent.
Alors ça, j'espère. J'aurais envie de le dire oui, sans que ça soit forcément très mesuré. Je ne sais pas trop. Je pense qu'il y a encore certainement beaucoup de boulot à faire. Mais ce que j'ai envie de dire, et ce qui, enfin moi, l'expérience que j'ai assez concrète à ce niveau-là, elle date de 2009. À cette époque, pour le montage, on avait à cette époque-là une très grosse tonnelle qu'il fallait monter. Enfin, ça prenait 8 heures, c'était très lourd. C'était... Voilà, il y a donc des gens, des patients, on va dire, de la communauté thérapeutique du CATO, de l'association de la sauvegarde, qui sont venus à mon initiative, hein, modeste initiative. Et je me souviens qu'à l'époque, certaines personnes ont pu dire « mais c'est pas dangereux ». Et à la fin, ils m'ont dit « mais qu'est-ce que j'ai été con de réagir comme ça ? Je m'en veux, les mecs, ils ont été top, ils nous ont aidés ».
On avait l'habitude de mettre une caisse de Jupiler au milieu de la... Et donc, on a dû réviser un peu nos attitudes. Parce que, bien évidemment, on n'allait pas pousser au vice. Ouais. Ben ouais. Mais je veux dire, ça nécessite absolument d'apprécier la situation et de s'adapter. C'est plus pour nous, en fin de compte.
On en parlait justement pour préparer cette émission en studio en disant que vous, loulous, les loulous, Franck, c'est un vrai rendez-vous dans l'année. Pour eux, c'est immanquable et ils attendent ça avec beaucoup d'impatience. Ils en parlent beaucoup hein, bien avant le festival.
Ah oui, ils en parlent beaucoup. Alors, il y a les Belles Bretelles, mais aussi les Agités du Mélange, parce qu'ils sont sur les deux fronts. Ils avaient même démarré aux Agités du Mélange. Ils en parlent beaucoup, et ce qui est surtout super, c'est que ça les sort de l'institution, et j'ai envie de dire, j'aime pas trop ce terme-là, de leurs conditions. Oui, 4-5 jours sur l'année, mais pas seulement. Parce que maintenant, il y en a beaucoup, ceux qui ont accès aux réseaux sociaux, avec leur petit téléphone, ou alors à l'atelier informatique, ben ils ont les contacts Messenger, qui de Bruno, qui de Joël, qui d'un tel. Ils avaient par exemple le contact de Pierrot, le contact de Bruno. Et c'est les petits messages. Comment tu vas? Comment ça? Tac, tac, tac. Et bah, y a des relations qui sont créées d'amitié. Alors que normalement, sur le papier, c'était pas possible. Parce que les gens n'allaient pas se rencontrer normalement. Et là, ils sont devenus des gens importants pour certains bénévoles. Et certains bénévoles sont devenus des gens importants pour eux. Et là, on a tout réussi.
Je vois Mélissa, justement, qui est avec nous, qui, justement, elle est toujours avec Joël, aussi, qui est une programmatrice. C'est ça, c'est un vrai duo.
C'est devenu un duo limite emblématique des Belles Bretelles. C'est que tout le monde les voit tout le temps à deux pendant les trois jours. On les voit tout le temps balader. Elles sont une image du HBB. Et ça, c'est fantastique, quoi. C'est fantastique.
Peut-être Joël, un mot justement. Justement, Mélissa aussi, c'est un vrai duo. Joël qui est programmatrice.
Oui, c'était une belle rencontre avec Mélissa. Je crois que ça fait 4 ans que c'est mon assistante officielle. La première fois qu'on s'est rencontrés, tout le groupe venait travailler et on a mangé ensemble. Et puis, je sais pas, il s'est passé quelque chose entre Mélissa et moi. Elle a demandé si elle avait l'autorisation de passer la journée complète avec moi, ce que son éducateur lui a donné. Et depuis, elle m'a dit « Est-ce que je peux rester avec toi, Madame Joël, s'il te plaît ?» Et j'ai dit « Mais bien sûr, tu m'es très utile, tu es mon assistante préférée. » Et depuis, chaque année, en fait, on se retrouve, voilà, elle passe tout le week-end à mes côtés. Et c'est pas des mots en l'air, parce que y a des moments où on est vraiment à droite, à gauche, avec plusieurs groupes qui arrivent simultanément, on oublie toujours de prendre quelque chose. Mélissa, c'est celle qui court me chercher la gourde d'eau, c'est celle qui court me chercher le sac, c'est celle qui court chercher Franck parce que j'ai besoin de lui. Elle est indispensable et voilà, je suis très heureuse de la retrouver à chaque fois.
Et puis Fred qui est avec nous, comment ça va Fred ?
Ça va très bien.
Alors toi, qu'est-ce que tu fais au sein des belles bretelles ?
Je transporte.
Ouais.
Matin de midi. J'étais à Bocoré ce matin.
Alors toi t'es ici, est-ce que tu te souviens de ta première fois ? Quand est-ce que t'as commencé ici ? C'était il y a longtemps ?
Longtemps. Après, avant Covid. Avant Covid.
Ouais.
Oui.
Pourquoi tu reviens, toi, chaque année ici ?
Ah, ça me plaît.
Ouais, t'as bien.
Oui, je serais bien.
Ouais.
Pourquoi l'histoire ? J'ai d'inspirer un peu l'air.
Et tu te sens exister, tu te sens vivant ici.
Oui.
Pareil pour toi aussi, tu te sens exister, tu te sens vivant. Tu sens qu'aussi on peut te donner des tâches à faire, qu'il y a confiance aussi.
Ouais, comme le chamboutou. Le chamboutou.
Ah oui, tu avais fait les jeux pour les enfants. Oui, parce qu'ils viennent aussi des fois pour la journée des jeux. Nordine, on lui avait laissé un stand, le chamboutou. Où il a géré, il a accueilli les enfants, il remettait les boîtes en place, il expliquait les règles. Nordine, on peut tout à fait le laisser seul avec une tâche, il n'y a aucun problème. Il sait communiquer avec le public, il n'y a aucun souci, quoi.
T'as aimé accueillir des enfants ?
Ah oui.
Laurent Michel, administrateur du club Léo Lagrange, Franck, administrateur et éducateur, Nordine, bénéficiaire, et Michel, un des organisateurs. Franck nous parlait ici des missions de ces bénévoles en situation de handicap.
La mission première d'un bénévole, c'est de parler à d'autres bénévoles. Sinon, si on ne se communique pas, on n'avance pas. Donc, la première qualité qu'ils ont tous, c'est cette envie d'aller communiquer, d'aller parler aux autres, d'aller partager. Donc oui, on peut leur confier après toutes les tâches qu'on veut. Du moment qu'on est dans la bienveillance entre nous, tous, qu'on soit issus d'Erny ou de Centre Serre-Fontaine de Perouet ou de la sauvegarde, peu importe. L'important, c'est de savoir communiquer. Et après, on fait ce qu'on veut. Hein.
Justement, le festival, il a évolué aussi. Et c'est grâce à tous ces bénévoles.
Oui, bien sûr. Et après, ce que je voudrais peut-être compléter aussi ce que Franck a pu dire, c'est alors peut-être moins pour les gens des structures qu'il a pu citer et desquelles viennent les personnes. Alors, voilà, par exemple, je pense que aux gens de la communauté qui viennent, ça a été un véritable terrain d'expérimentation. Il y a une année, il y a un des gars de la communauté, donc un patient hein, avec des problèmes d'addicto, qui a voulu se tester sur le bar. Et avec plus ou moins de succès, on va le dire. Mais voilà, bon, ça a été aussi des moments qui permettent pour les personnes, notamment à la communauté, de venir justement en situation particulière, se frotter, voir aussi les difficultés qui pouvaient être encore les leurs, dans un cadre quand même suffisamment contenant où les difficultés peuvent être reprises. Pas plus tard que samedi, ça a été la même chose pour un autre qui a pu effectivement s'ester dans les rapports avec les autres. C'est des situations, dans ces structures-là, on ne peut pas les vivre. C'est que sur l'extérieur, et parce qu'il y a des lieux comme ici, ou avec une intention qui est la nôtre, une ouverture d'esprit qui permet ça, que les choses puissent se vivre. Et après, parallèlement, il y a effectivement un vrai plus qui est apporté, parce que si le festival existe, et parce qu'il y a aussi des gens qui se dévouent, dont tous les bénévoles, je veux dire chacun dans sa place, dans ce qu'il a, dans son potentiel, dans la disponibilité qu'il va avoir, c'est ça qui fait qu'on arrive à ce résultat-là, quoi.
Le Belle Bretelle est aussi un festival aussi d'expérimentation aussi, qui a montré aussi peut-être d'inclusion pour d'autres festivals.
Oui, c'est pas le festival en tant que le festival, c'est l'outil, mais c'est l'intention qu'on a au niveau de l'asso. L'idée, c'est effectivement aujourd'hui que les gens puissent voilà être ensemble, partager ensemble, faire les choses ensemble, vivre ensemble, et éviter un peu toutes ces barrières. Enfin, nous, modestement, notre intention, c'est que les barrières qui existent, que ce soit de par le niveau, le lieu, l'origine des personnes, elles volent. Que voilà, et qu'il n'y en ait plus, et que les gens se partagent ce qu'ils ont et se découvrent et ont envie de se rencontrer, se parler, comme le dit Franck. Et c'est ce qui fait qu'effectivement, après, bah, on arrive à ce que des situations, modestement, je pense, évoluent et qu'on ait des perceptions un peu différentes. Quand les représentations tombent, je pense qu'en quelque part, on a gagné.
L'inclusion au Hainaut Belle Bretelle, festival d'accordéon à Ernie. Ce reportage a été réalisé par Joris Nassens de Radio Club.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Déjà là, avait l'air de rien et elle butine. Elle aime dire qu'elle a très bon appétit, qu'elle se sent un peu abeille. Elle cultive les excès, elle se fait à l'idée qu'elle les convoite par dizaines. Des envies qui filent à toute vitesse et qu'on s'apprête. Emma griffe, Emma mord, Emma dit bonjour encore et tant pis si il a peur. En latex, en princesse, il n'y a jamais rien qui la vexe. Elle se sent tout jour à l'aise. Emma, Emma, les beaux parleurs et les chiens aux alentours, elle y aura leur chanter de trois mots d'amour, deux ou trois mots d'amour et voir, mais jusqu'où il court.
Jusqu'au 25 mai 2026, le Centre historique minier de Leeuward présente l'exposition Au charbon pour un design post-carbone. Une exposition proposée en collaboration avec le Centre d'innovation et de design du Grand Ornu en Belgique. L'exposition Au charbon pour un design post-carbone réunit plus de 40 œuvres de designers, architectes et plasticiens du monde entier. Ces artistes se sont emparés du sujet du charbon sous toutes ses formes pour exprimer à travers le design leur vision du monde de l'après-carbone. Luc Pirala, directeur conservateur du Centre historique minier de Leeuward.
Cette exposition, elle a d'abord été présentée au Centre de l'innovation et du design au Grand Ornu, qui est un grand site du bassin minier UNESCO côté wallon, hein, côté belge. En fait, avant même mon arrivée ici, je trouvais que c'était une proposition qui serait vraiment intéressante de présenter ici à Leeuward.
En quoi ?
Ben justement parce que c'était une exposition qui était une exposition de design et donc qui nous permettait d'avoir un pas de côté par rapport à, j'allais dire, notre programmation culturelle habituelle, plus historique, et parce qu'elle était très engagée. C'est-à-dire que, au fond, cette exposition qui s'appelle Au charbon, alors Au charbon, ça peut tout dire et rien dire, mais le sous-titre, c'est pour un design post-carbone. Et vraiment, l'idée de l'exposition que les commissaires ont vraiment essayé de porter jusqu'au bout, c'est de voir comment des artistes d'horizons très différents, de pratiques artistiques très différentes, au fond, ont essayé, grâce à, quelque part, la question du matériau charbon sous toutes ses formes, de quelque part repenser les grands problèmes liés au charbon, qui est quand même cette question de l'extractivisme évidemment les conséquences que ça a aujourd'hui dans le climat. Donc le Centre historique minier aujourd'hui est engagé dans une démarche de décarbonation, de sobriété, et ça nous paraissait important d'avoir une vraie exposition qui traite, j'allais dire, de front ces problématiques avec une proposition, moi, que je trouve magnifique et que je conseille à tous les amoureux du Centre historique minier.
Le fait que ce soit des artistes qui s'emparent de ça sur
un domaine, le design, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à aborder pour le grand public. C'est pas quelque chose qui vous a effrayé?
Non, je pense que c'était évidemment un enjeu pour nous de proposer quelque chose de très exigeant en termes de design. Et pour ça, on n'avait aucun doute que les collègues, l'équipe du Centre de l'innovation et du design du Grand Ornu ferait une proposition au plus haut niveau. Mais tout l'enjeu a été effectivement d'adapter cette proposition à la fois aux salles, mais aussi au centre historique minier, à son vocabulaire, à sa manière de faire et évidemment à son visiteur. La réussite du projet pour moi, c'est d'avoir été capable de faire quelque chose de très beau, de vraiment très esthétique, mais en même temps, en termes de discours, de très accessible, de très fondé, et au fond, qui touche tout le monde, quoi. Donc, sans avoir une connaissance vraiment très pointue sur le design. J'invite les gens à venir tenter l'expérience. Il n'y a pas besoin de s'y connaître très profondément en design. Il faut se laisser porter sur les propositions qui sont faites par les artistes, qui, à la fois, vous toucheront esthétiquement, j'en suis sûr, mais vous feront éminemment réfléchir.
Le but, c'est de comprendre, d'apprendre ou de s'émerveiller, ou les trois en même temps, mon capitaine.
On n'a pas à faire de choix, je pense, dans les musées. Je pense qu'on a des publics qui sont en recherche de toutes ces choses-là à la fois. Je pense que venir dans un musée, c'est à la fois apprendre des choses, voir des choses qu'on ne voit pas au quotidien, et en même temps, évidemment, toujours de se poser des questions et d'en ressortir un peu différemment de comment on y est rentré. Oui.
Ici, sur ce territoire, on est les premiers concernés pour comprendre que c'est compliqué que de sortir du charbon parce que ça a des conséquences sociales, économiques, environnementales.
Bien sûr. Oui, mais en même temps, on est dans un territoire qui, justement, est un territoire qui a commencé déjà une transformation. Et en fait, on est un territoire de renouveau, de résilience et qui est aussi aujourd'hui en train de regarder vers l'avant et qui, en se basant sur son héritage charbonnier, est capable d'inventer de nouvelles propositions pour l'avenir. Donc en fait, c'est le lieu pour avoir ce type d'exposition et ce type de discours.
On entend les enfants passer. Ouais. C'est important que d'avoir cette jeunesse dans le centre historique minier. Et exactement, on est ici dans un lieu vivant. On parle forcément du post-carbone, du post-charbon. Si nous, on a fait une transition énergétique avec un mix nucléaire, c'est que quelque part, on extrait également de l'uranium. Mmh. Donc, on n'est pas entièrement sorti de ça, sauf que c'est plus chez nous.
Complètement, mais c'est un des enjeux aujourd'hui sur lesquels on est confronté. Alors ici, on sort un petit peu de la problématique de l'exposition, mais on va être soumis à deux impératifs qui vont être contradictoires d'un point de vue global. C'est-à-dire, d'une part, essayer d'être souverain et de pouvoir, au niveau européen déjà, être en capacité d'avoir une autonomie sur un certain nombre de matériaux et de matières premières stratégiques. Et de l'autre part, je pense qu'on ne doit pas, mais ça c'est un point de vue personnel, renier évidemment des exigences sociales, environnementales et autres. Donc ça, c'est tout le rôle du Centre historique minier à l'avenir, d'être ce lieu de discussion, de débat, parce qu'il y en faut. C'est normal qu'on soit pas tous d'accord sur ces questions-là. Nous, le Centre historique minier, on est engagé pour quelque chose d'autre, mais après tout, tout le monde a sa place ici, les énergéticiens aussi, parce que il va falloir qu'on trouve des compromis pour pouvoir avancer tous ensemble. Et je pense que le Centre historique minier est le lieu vraiment dans la région pour ça.
Alors c'est vrai que si j'aborde la question sur le côté énergétique, on sort du cadre de cette exposition. Néanmoins, on parle quand même d'extraction dans cette exposition avec un film fort à la fin proposé que j'invite tous nos auditeurs à venir voir parce que c'est la réalité, c'est en Europe, mais ça nous concerne également directement si on parle des terres rares, du cobalt, de l'uranium.
Tout à fait. Le problème, il n'est pas que chez les autres. Hein. Et de toute façon, évidemment, cette exposition, elle invite aussi à avoir une réflexion personnelle par rapport aussi à nos propres impacts individuels sur l'environnement aussi. Mais je tiens quand même à dire que le sujet, il n'est pas de culpabiliser les gens, mais je pense qu'il est quand même important. Et en ça, je le répète, cette exposition, elle est là pour ça. Elle est là pour, essayer de penser un petit peu différemment. Et les artistes sont là pour ça. Et finalement, à travers les propositions que l'on montre, on invite comme ça, quelque part, gentiment, mais résolument à essayer de penser autrement et penser autrement et faire autrement. C'est tout l'enjeu du projet hein, du Centre historique minier, hein, d'être véritablement un musée qui permet de penser autrement et qui est vraiment un outil à la fois d'aménagement, mais aussi un outil de transformation du territoire et de ses usagers visiteurs. C'est vraiment toute l'ambition.
L'exposition Au charbon pour un design post-carbone est donc visible au Centre historique minier de Leeuward dans le Nord jusqu'au 25 mai 2026. Le commissariat de l'exposition est assuré par Giovanna Massoni et Amandine David. Giovanna Massoni.
Aujourd'hui, on ne peut plus continuer à sous-évaluer les impacts du progrès. C'est le mettre un peu en question par rapport à ce que nous, la nature nous rend de tout ça. On sait qu'on a mis en danger la nature, mais la nature est tout à fait résiliente. L'homme, malgré tout, ne l'est pas du tout. Donc, c'est ça qui est inquiétant. C'est la problématique sociale, géopolitique et écologique que le charbon porte avec soi et qui est, disons, réinterprétée de manière positive et encourageante, je trouve, par les designers, les artistes, aussi Joanny Lemercier qui nous offre un portrait impressionnant de cette tragédie, l'implication tragique de la construction de cette mine à ciel ouvert en Allemagne, termine avec un acte qui est la protestation, la désobéissance, l'action. Et l'action est créativité, l'action est créative.
Est-ce qu'on peut faire une œuvre de ces actions politiques?
Exactement, mais c'est ça.
Pour faire des œuvres avec ça?
Pour moi, c'est vraiment s'immerger dans une expérience esthétique qui amène énormément de messages et de sollicitations politiques qui nous ouvrent les yeux, qui nous font pleurer, qui nous font activer quelque chose. Il faut réagir. La résistance, hein, la résistance, c'est art, c'est l'art. Hein, c'est le design, c'est une forme qui s'approche à la création artistique, mais qui travaille sur la pratique, sur la solution, sur l'expérimentation qui, à petite échelle. Et le souhait, c'est que cette vision ouverte, respectueuse, éthique que le design, désormais, le design, bien sûr, de recherche, a désormais prouvé en plusieurs projets, devienne effectivement le fil rouge de ce changement qui doit vraiment prendre place maintenant et s'activer.
Est-ce que chez les designers, on faisait encore, peut-être il y a 30 ans, 40 ans, des choses qu'on ne ferait plus aujourd'hui au regard de leur impact environnemental?
Exactement, certainement. Certainement, on est beaucoup plus attentif effectivement à l'impact environnemental et l'utilité. Donc, et surtout, je dirais, à la question de comment on consomme, pourquoi on a besoin de ça. On apprend dans les écoles désormais, la première question à se poser, c'est pas comment je l'utilise, quelle forme je lui donne, mais ça sert vraiment.
C'est-à-dire que le futile n'existe plus, ne doit plus exister.
Ça peut continuer à exister, mais au niveau d'une échelle industrielle, la question se pose de manière un peu différente. Donc, je peux créer quelque chose de précaire, de bricolé futile, mais au niveau industriel, l'impact devient tellement important qu'il vaut mieux se poser cette question. Et puis, c'est une question aussi de posture, hein. C'est une attitude. Est-ce qu'on doit vraiment continuer à produire et à surproduire pour générer des déchets qui ne sont pas récupérables non plus, hein, parce que maintenant on se pose la question avec les batteries au lithium, etc., à propos d'autres types de mines, hein, parce que là c'est le discours se reproduit avec d'autres matériaux, mais on est en train quand même de pérenniser les mêmes erreurs ailleurs. Ça, c'est une vision un peu négative. Ma vision positive, c'est je suis dans la culture et le design ou les arts plastiques parce que je crois dans cette énergie que la culture peut infuser et pour sauver, nous sauver de quelque chose.
L'exposition au charbon pour un design post-carbone est visible au Centre historique minier de Loarde jusqu'au 25 mai 2026. Pour plus d'informations, rendez-vous sur chm-leward.com. Interview Hervé Dujardin pour Radio Scarpe Sensé.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Radio Campus 106,6, libre de passer du bon son.
Mais t'avais dit que tu passais du bon son ?
Oh, mais j'avais pas promis. Et puis je suis libre.
Passé des années à marcher sur le bord, à rejoindre la marge, à frôler le décor Dans ce monde inquiétant, j'ai croisé des tordus, mais toujours évité la valse des vendus. Ici, les résistants ont le cœur qui résonne, c'est qu'ils sont turbulents, les enfants de Maldonne. On écrit cette histoire qui seule nous appartient, propriétaire de ces vers, de ces bouts de rien. On en est là, choisis ton camp, voici le mien. Faut pas grand chose pour faire un peu d'humain. La petite flamme qui brûle en moi, vous l'aurez pas. La fragilité, la beauté, vous l'aurez pas. Ce que les uns peuvent se donner, vous savez pas. Vous savez juste prendre le fric et puis basta. Passer des années à combattre la mort, à dessiner des rêves, à espérer encore, à croiser des fantômes devant leur écran. Petit pantin, un jour prochain deviendra grand. Ici, les résistants ont le cœur qui résonne, c'est qu'ils sont turbulents, les enfants de Maldonne. On écrit notre histoire à grands coups de fusain. Ces vers de ces bouts de rien, on en est là. Choisis ton camp, voici le mien. Faut pas grand chose pour faire un peu d'humain. La petite flamme qui brûle en moi, vous l'aurez pas. L'absurdité, la surdité, je les combats. Les silences qu'on peut partager, vous savez pas. Ils valent de l'or bien plus cher que tous vos blabla. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
Radio Campus Lille, 10h.